France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Engagé dans la Grande Guerre avant son appel, Joé Bousquet n'avait guère plus de 20 ans quand, en 1918, une balle allemande lui sectionna la moelle épinière, le privant de l'usage de ses jambes pour le reste d'une vie qu'il allait consacrer à l'écriture. Cloué au lit, dans sa chambre au volet clos du 53 de la rue de Verdun à Carcassonne, qu'il ne quittait guère que pour sa toute proche campagne de Villallier, Joé Bousquet rédigea poésie, romans, nouvelles et essais, composant durant 32 ans une œuvre inclassable. Œuvre dont on a pu dire qu'elle était tout à la fois mystique, métaphysique et philosophique. Durant les 32 ans de sa vie d'écrivain, écrivait Maurice Nadeau dans sa préface à Papillon de neige, Joé Bousquet n'a cessé de s'interroger. Sur lui-même, sur le sens qu'il devait donner à la blessure reçue le 27 mai 1918 à Vailly et qui l'a rendue définitivement infirme, sur les pouvoirs de l'écriture, dès lors qu'on entend la considérer comme moyen, celui d'un acte qui fait naître, d'un même mouvement, la parole et la vie. En 1975, Françoise Estève proposait aux auditeurs de France Culture un documentaire en deux temps consacré à Joé Bousquet, dont nous écoutons ici le premier volet. Joé Bousquet, l'inconnaissant, première partie, une émission diffusée la première fois le 22 octobre 1975 sur France Culture, à laquelle participaient son compagnon d'armes Alfred Poncinet, sa sœur Henriette, son ami le poète occitan et historien du catharisme René Nelly et Ginette Augier, avec laquelle Joé Bousquet entretint plusieurs années durant une amoureuse amitié. Les extraits des textes de Joé Bousquet étaient lus par Michael Lonsdal.
J'écris pour ceux qui viendront plus tard, avec des âmes à ma ressemblance, assez pures pour se sentir blessées par la vie même comme je l'ai été par la mort. La vérité est à rendre inoubliable.
Joé Bousquet, l'inconnaissant. Françoise Estève. Jean Couturier. René Nelly. Voix Michel Lonsdal.
Alors nous sommes partis comme ça. Nous avions fait déjà pas mal de chemin. Et le capitaine, parce qu'il faut vous dire d'abord, que cette patrouille, nous devions prendre côte à côte contact avec les Allemands pour savoir exactement au point où ils, après où ils étaient.
Alfred Poncinet.
C'était la grande offensive hein, de 18, les Allemands avançaient. Et le capitaine eut un remords de conscience, nous avons laissé partir. Et il a envoyé une estafette à cheval. Courageux, ce monsieur-là, ce soldat-là, cette estafette, est arrivé vers nous avec un pli. Nous avions fait déjà 2 kilomètres, peut-être. En nous disant que peut-être il vaudrait mieux que nous faisions demi-tour, que. Alors le lieutenant Bousquet lui a dit non. C'est dit, que nous devons faire la patrouille, nous la ferons. Vous pouvez dire au capitaine Houdard qu'il sera sûr que la patrouille continue. Et nous avons continué. Nous étions 6-7 entre le sergent Salle, qui était un prêtre aussi avec nous, qui était curé. Et puis des copains, potards, tout ça. Tous des copains sur qui il avait confiance. Hein, voilà. Alors nous avons marché évidemment. En marchant, on est tombé dessus. Parce que les patrouilles allemandes étaient en distance de 30 à 30 mètres. Alors, nous sommes tombés sur la première patrouille. Ils se sont levés. Et alors, moi, avec mon petit mitrailleur, j'ai pas même le temps de me baisser, j'ai tiré droit avec mon petit mitrailleur sur la patrouille allemande. Il me dit, ça va, il me dit, tu as fait du bon travail, il me dit. Et alors, évidemment, au coup que j'ai donné sur la première patrouille, l'autre patrouille qui était à 30 mètres plus à droite, hein, a tiré sur nous. Et c'est à ce moment que le Bousquet est tombé dans mes jambes. Alors il m'a dit, laisse-moi mourir ici. Alors j'ai dit non. J'ai dit, il faut absolument Vous ne resterez pas ici, je lui dis. Alors que moi, petit mitailleur, je vais m'attendre de temps en bandoulière.
Enfin, nous avons débouché sous le feu. Quelques fuyards, des blessés, venaient à notre rencontre. Je les écartai d'un geste, leur interdisant de parler à mes soldats, que je ne voulais pas démoraliser. Je revois tout cela comme si j'y étais encore. Des avions allemands tournaient dans le ciel, un village brûlé. Sur les crêtes fermant l'horizon, on voyait les colonnes allemandes, réserves des troupes que j'allais heurter dans la vallée. Un chasseur à cheval est venu au galop sous les premières balles me porter pour la deuxième fois de la division une exhortation à tenir coûte que coûte. C'était presque superflu, j'en avais assez. Mes hommes étaient déployés, formant désormais la première vague de défense, car les compagnies au secours desquelles je me portais s'étaient déjà repliées quand je les croyais prisonnières. Je suis revenu difficilement au milieu de mes hommes et j'ai fait commencer le feu. Les Allemands avançaient de trois côtés à la fois, 40 fois plus nombreux que nous, couverts par un feu très violent qui commençait à me blesser et me tuer des hommes. Cela a duré assez longtemps et l'ennemi progressait. Quand les éléments les plus avancés n'ont été qu'à une cinquantaine de mètres, quelques hommes se sont levés pour s'enfuir. Et j'ai dû les ramener de force dans le fossé où nous avions organisé bien pauvrement une position de fortune. Et alors j'ai compris que c'était fini. Et je suis resté debout. C'est comme cela que j'avais vu tomber le 16 avril 1917 les officiers dont j'avais pris la place. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Une balle m'a atteint en pleine poitrine, à deux doigts de l'épaule droite, traversant obliquement mes poumons pour sortir par la pointe de l'omoplate gauche. Ce qui faisait du même coup traverser au projectile mes deux poumons et la partie avant du corps vertébral. Je suis tombé, entendant un cri, mais il paraît que ce n'est pas moi qui ai crié. Un caporal a crié « Quel malheur, le lieutenant est tué !» Je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'allais mourir et qu'il fallait que tout le monde se replie tout de suite pour échapper au feu de l'ennemi. On a crié « Sur l'ordre du lieutenant, en retraite !» Mais quelques hommes ont couru vers moi, refusant, malgré mes ordres, de m'abandonner. Plusieurs fois, je leur ai dit « qu'il me sauvait en vain et qu'il valait mieux m'abandonner sur ce plateau où la nuit tombait vite maintenant, couvrant l'avance de plus en plus rapide de l'ennemi. J'ai été emmené, malgré moi, complètement inerte déjà, car le choc avait immédiatement paralysé les jambes. Je vois encore le regard que je tournais vers mes jambes, soudain désarticulées, et que je ne reconnaissais plus avec ces bottes rouges sombres qui semblaient compléter la toilette d'un mort. On m'emportait. Paralysie complète. C'était la deuxième vie qui commençait. Tu sais exactement mon état. Je ne me suis jamais levé, sauf l'été, pour m'asseoir dans un fauteuil.
À 19 ans, il était mutilé et il était même paralysé à partir de la quatrième vertèbre. Et il était inerte dans son lit. Il souffrait.
Je crois que seuls peuvent fixer Bousquet, c'est-à-dire se faire de lui une certaine idée, enfin, ceux qui ne l'ont pas connu ou qui l'ont très mal connu. Il était un résumé de toutes les contradictions humaines.
René Nelly.
Par certain côté, il était rationaliste, en ce sens qu'il raisonnait juste, qu'il était tout à fait capable de suivre un raisonnement philosophique rigoureux, et même d'en faire. Mais par d'autre côté, il était l'irrationnel même, toute la philosophie de Bousquet, c'est une philosophie de l'irrationnel. Mais dire philosophie de l'irrationnel, c'est précisément dire qu'il a essayé de mettre de l'ordre, de la logique, et de légitimer l'irrationnel.
Une pensée n'est vérité que si j'ai réussi à m'halluciner avec elle.
Il n'a pas été surréaliste, cependant il l'a été. Il a été toute sa vie déchiré entre deux tendances opposées, antagonistes. Un certain classicisme méditerranéen, celui de Paul Valéry, qu'il connaissait bien, celui de François-Paul Alibert, dont il admirait les poèmes et qui était son visiteur du soir le plus assidu. Alors, il y a chez lui tout un côté de poésie, il y a toute une poésie méditerranéenne, pure, harmonieuse.
On m'a habillé. J'ai gagné la terrasse, il ne pleuvait plus. La même nuit emplissait l'espace et mon corps frissonnant, dont mes yeux n'étaient plus distincts. Mes lèvres tremblaient comme inquiètes d'un mot qu'elle était impuissante à former. Avant de redescendre, j'ai hésité beaucoup, comme si j'avais été en peine d'une parole inconnue et que la tentation seule de quitter ce lieu eût à jamais éloigné de moi. Quel mal, ai-je pensé, le noir se donne pour nous forcer à croître. Une large goutte s'est écrasée sur le dos de ma main, tandis qu'une fraîcheur montait du gravier, désaltérée par une odeur errante de buis et de magnolia. Aussitôt, le silence a paru s'accroître de tout mon cœur. Demain, c'est mon cœur d'hier et seulement le regard du jour où je n'entrerai plus. Ce que j'ai cessé de voir me voit. C'est fort étrange, cette vérité que l'on n'a pas eu à apprendre. L'homme met au monde l'univers, mais sans réussir à se mettre au monde lui-même. Faute de mieux, il croit et cette foi anticipe sur l'existence où il ne peut pas entrer, dont il n'est que le témoin chétif, exténué. Et il redit « Je vis » sans plus se comprendre. Il redit cette parole avec l'obstination d'un enfant que son entêtement endort. Il ne faut pas nous demander pourquoi notre vie se fait hors de nous. C'est un sommeil que nous entretenons en rêvant qu'il nous éveille. Les toits brillaient, l'ombre regardait la clarté. Ma vie me paraissait aussi légère qu'un sourire du moment que j'en aimais et comprenais la fin. La nuit montait de la terre, comme un oiseau de rosée poursuivant silencieusement son vol afin de ne pas se briser.
Puis il y a cette espèce d'ouragan surréaliste qui traverse ses proses. Il y a cette nouveauté perpétuelle. Mais je crois qu'en fin de compte, il me semble que les critiques ne l'ont pas assez souligné. En dépit de l'influence surréaliste et de l'irrationalisme, la poésie de Bousquet, l'écriture de Bousquet, demeure, je ne dis pas classique n'a pas de sens, mais elle demeure harmonieuse, mesurée, pure.
Ne tient pour valable que les certitudes susceptibles d'outrepasser l'intelligence et de faire échec à ses leçons de mort.
Et c'est pour cela que certains critiques modernes, enfin, dont je suis, pense d'un côté, auraient tendance à appeler le surréalisme de Bousquet le surréalisme méditerranéen. Pour bien montrer que le surréalisme de Bousquet n'est pas celui d'André Breton, n'est pas celui de Benjamin Perret, qui est d'abord un surréalisme parisien. La ville joue un rôle décisif. Les bars, les cafés, les jeunes parisiennes, tout ce décor, tout cela ne paraît pas chez Bousquet, et pour cause, puisqu'il habitait la province. Et en revanche, il y a toute l'invasion de la nature, le soleil, la mer, la côte méditerranéenne, les arbres.
Les choses les plus désirables du monde ne sont que les symboles des vérités que je poursuis. Rien ne me paraît beau que je ne le puisse atteindre au-dedans de moi par les seules forces de mon esprit. Et ce n'est que par mon aptitude à créer des valeurs que j'entrerai en relation avec le monde. Enragé à la recherche d'un équilibre dont ce qu'on nomme vérité est l'image. L'ivresse des sens, le dynamisme poétique font emprunter des voies différentes à une impulsion plus forte que nous et qui nous met, semble-t-il, au monde afin de nous rendre le monde intérieur. Voir les choses comme on entrerait en soi-même.
Bousquet adorait le monde végétal, hein, parce que le monde végétal était le seul, disait-il, qui ne lui rappela pas sa blessure. Le monde végétal n'est pas blessé, alors qu'au fond, les animaux le sont. Bousquet avait horreur de tous les systèmes. Dès qu'on essayait de codifier un ensemble d'idées, Bousquet entrait en transe et disait qu'il ne croyait à rien. Alors, on ne peut pas dire qu'il croyait au signe comme on croit à une philosophie. Il a moins systématisé la théorie des hasards objectifs que ne l'a fait Breton. Il s'insurgeait même contre les théories de Breton. Enfin, n'empêche qu'il a passé toute sa vie à observer les signes qui jalonnaient son destin. Et ces signes sont extraordinairement troublants. Moi qui ai passé toute une partie de ma vie à ses côtés, je peux dire que depuis l'événement même que fut sa naissance, hein, cette espèce de naissance manquée, on le croit mort, il entre dans la vie comme un enfant mort, jusqu'aux épisodes terribles du roman que fut sa vie, l'amour, le jésuite Houdard qui fut son capitaine pendant la guerre et qui a eu sur lui une influence extraordinaire. Jusqu'aux circonstances même de sa mort. Enfin, tout dans la vie de Bousquet s'arrange comme un roman, s'arrange comme une fiction.
Chaque matin, éveillé dans l'angoisse, je ressens l'horreur d'un naufragé. Chaque jour, l'épreuve ressuscite le jour trouble de ma naissance. Une infirmière s'est forcée de me ranimer. En s'éveillant, ma mère entendit mon père s'écrier « Quel dommage, c'était un garçon !» Un an après, une femme de chambre me trouva prise au piège, jouant cependant entre les bras de ma nourrice qui venait de mourir subitement. Tout ce que j'ai vécu donne une idée horrible de l'existence. Cependant, à mes propres yeux, ma vie n'aura été que la douceur de vivre. Je n'habitais pas ce monde, mais le regard des yeux les plus purs. Mon moi n'était pas en moi. Il traversera tout pour venir me chercher dans les ruines de mon corps. Les hommes m'ont cru malheureux. Ils voyaient mes plaies avec leur regard dont ils étaient l'horizon. Mon être est sauf de tout ce que je suis. Je travaille pour empêcher mes jours de le recouvrir. J'affranchirai ma vie de son apparence quotidienne.
Bousquet croyait au destin, et avec une précision métaphysique qui surprend. Pour Bousquet, toute sa vie, c'était le développement, harmonieux d'ailleurs, de sa blessure. Et cela supposait des choses difficilement pensables pour nous, enfin, à savoir que sa blessure existait avant sa vie. C'est à la fois la cause et l'expression et la fin de toute sa destinée. Toute sa vie aura été une blessure.
Appuyée sur ma pensée, ma solitude s'agrandit. Elle n'est plus celle d'une chair jetée à l'écart. Elle est la forme que ma vie a prise pour m'appartenir. Cette vie, c'est bien la vie de ce que je suis au-dedans de moi. Mon sort ne fut jamais que l'image intérieure de mon cœur. On dirait que certains événements ont dû tout à fait me comprendre pour parvenir à m'atteindre.
Le destin se présente donc comme un tout, comme une forme. On peut penser à Platon, par exemple, le mythe d'Erl l'Arménien, le texte célèbre où les âmes choisissent leur destin. Et une fois qu'on l'a choisi, on s'incarne et on le réalise, comme on vient jouer une partition. Pour Bousquet, le problème était un peu différent de ce qu'il est pour la plupart des hommes, qui, à moins qu'ils n'aient eux aussi un destin broyé, ont en réalité un destin divers, avec du bon, du mauvais. Pour Bousquet, ce n'était pas tout à fait cela. C'est un destin absolument tragique, un destin brisant.
Souvenez-vous qu'il n'y a pas de vérité sans emprunt à l'espérance. Les grandes clartés se découvrent à celui qui a gardé ses yeux d'avant le savoir. Il démêle les événements avec la pointe de ses regards au fond desquels se creuse la nuit qui n'a jamais commencé. Cette immensité toujours renaissante le hante, et elle l'empêcherait de se reconnaître lui-même si son enfance n'y demeurait pas ensablée. À travers les chansons ou les appels ou les murmures de l'agonie, il entend seulement des voix et n'était que pour les entendre, parce qu'un homme ne meurt pas de ce qui le tue en effigie.
Il avait été un jeune garçon vigoureux, aimant les femmes, aimant le plaisir, et il est brusquement condamné à être tout le contraire. Alors la première réaction a été ce que j'ai souvent appelé la réaction luciférienne, c'est le refus de ce destin. Autrement dit, le refus du mauvais destin, avec l'idée qu'il y a un bon destin et un mauvais, le bon étant celui du jeune officier brillant et saint. Et le mauvais étant la mort et la blessure. Alors, il a essayé de faire, dans la mesure du possible, tout ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été blessé. Alors voilà la négation du destin. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça, parce que ça le menait à une impasse, et au fond, ça contredisait sa véritable théorie. Il ne s'agit pas de se mettre en rébellion contre son destin, il s'agit de l'assumer. Vouloir encore l'amour des femmes, vouloir encore boire du champagne, car il en buvait, ce n'est pas s'insurger contre son destin, c'est donner un sens plus parfait à son destin blessé. Et je crois que c'est cela qui a vraiment été fécond chez lui. D'autant plus que cela s'accompagnait de véritables vertus morales, qui surprennent chez un homme comme Bousquet, qui était plutôt immoraliste. Mais d'abord le stoïcisme, qu'on oublie toujours. Bousquet s'imposait, puis je crois sans grand effort, d'abord de ne jamais se plaindre. Je n'ai jamais entendu Bousquet se plaindre de quoi que ce fût, d'un malaise, d'une douleur. Si s'en plaignait, c'était sur le mode ironique, ou sur le mode d'une certaine colère saine, qui contribuait d'ailleurs à le remettre dans la norme, dans la normalité. Car enfin, nous tous, nous nous mettons quelquefois en colère. Il ne faut pas confondre la résignation stoïcienne avec une sorte de fausse résignation stoïcienne. Lui était exactement ce qu'il fallait.
Me connaître afin de savoir me répudier. Pour être le lieu d'une force intacte. Sentir que je suis non la vie, mais l'asile de la vie. Je crois que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est ce qu'il porte en lui de plus incommunicable. Un homme est grand par ce qu'il a en lui qui ne peut être partagé. Un homme grand, c'est une vie manquée. On finit toujours par arriver quelque part, mais moi, je ne me reposerai plus. Rien ne pourra me satisfaire, et la vérité ira en moi à la recherche de la vérité. Je deviendrai l'ennemi de tout ce qui m'empêchait d'être moi-même.
La vertu de courage, bien entendu, la vertu d'espérance, pour parler comme les catholiques, puisqu'il n'a jamais désespéré de son être, de son inspiration poétique. Alors, il est arrivé à un point où l'amour des femmes, par exemple, la joie de vivre, n'était pas du tout une protestation contre un destin passé et à abolir, mais était la continuation du destin blessure. Je sais que cette idée est parfois difficile à saisir, mais en réfléchissant un peu, on voit quand même combien elle est juste. Bousquet a magnifiquement réalisé son destin. Et il l'a réalisé d'abord en généralisant sa blessure. Je crois que c'est cela la véritable tentative philosophique.
Nous ne sommes séparés du monde que parce que nous le sommes de nous-mêmes. Une blessure n'est que cette séparation, et c'est parce que nous sommes blessés que nous ne pouvons aimer qu'en blessant.
Et lorsqu'on me dit, le psychanalyste notamment, oui, enfin, c'est tout naturel, il ne pouvait se libérer de sa blessure qu'en la prêtant à tous les hommes. Je réponds, enfin, ça, c'est possible, mais il n'allait pas m'envoyer en effet que tous les hommes, nous sommes tous blessés, nous sommes des êtres finis, nous sommes tous blessés. La blessure d'un jeune lieutenant dans une guerre n'est qu'un cas particulier, et particulièrement tragique, je le veux bien, de la blessure humaine. Et lorsque Bousquet dit « ma blessure m'a révélé que tous les hommes étaient blessés », enfin, j'ai quand même l'impression que cela lui a permis, lui a donné une clé pour comprendre toute la philosophie de l'homme. Sur le plan éthique encore, c'est une idée, c'est une fort belle idée que celle qui consiste à déclarer que le destin étant ce qu'il est, c'est-à-dire une blessure en l'occurrence, il faut donner à cette blessure tout l'éclat possible, toute la réalité possible, autrement dit, toute la valeur possible.
Je ne crois pas que l'individu existe tout à fait. Il n'existe que dans sa pensée, c'est-à-dire dans un deçà subjectif. Il poursuit, les yeux ouverts, une espèce d'existence intra-utérine qui aspire sans cesse à se poursuivre et l'achemine à tâtons d'un amour à l'autre vers l'oubli de lui-même. La seule morale que je retienne est celle qui reconnaît cette misère congénitale et pose avant tout que nous ne sommes pas à moitié nés. Elle est dure, âpre. Elle nous impose, comme seul principe d'existence entière, le fait qui nous advient, quel qu'il soit. Tiens que, seul, cet événement est réel et qu'il nous appartient d'en accomplir la perfection et l'éclat.
Et cette valeur n'était pas tellement pour Bousquet une valeur morale. Ce n'est pas la valeur du héros. Bien qu'il y a chez Bousquet toute une échelle de valeurs héroïques. Enfin, pour lui, ce n'était pas tellement les valeurs héroïques, nietzschéennes, si l'on veut, qui sont à la mort d'aujourd'hui. C'était les valeurs poétiques. C'était les valeurs de l'imaginaire. C'était, au fond, voilà ce à quoi il faut toujours en venir. C'était l'accès à une autre vie. Autre vie, pas la vie surnaturelle, puisqu'il n'était pas encore mort, mais la vie surréelle. Bousquet a passé son existence à s'insérer dans une vie située entre l'être et le néant. Qu'est-ce que c'est qu'une vie située entre l'être et le néant? Ah bien, c'est la vie imaginaire et la vie exaltée. La vie est imaginaire et exaltée par l'amour de la femme, par l'amour du risque. L'amour du risque a joué un très grand rôle dans ces années de guerre, l'amour du risque, par l'amour du rêve, de la poésie, et par le goût des stupéfiants. Tous ces éléments psychologiques, métaphysiques en un sens, c'est tout cela qui constitue la vie dans la mort, que j'appelle la vie dans la mort. On m'a reproché quelquefois cette expression. Elle me semble pourtant juste. Il y a la mort dans la vie et la vie dans la mort. Il m'a dit 100 fois, l'au-delà, non, il n'y a pas d'au-delà. Du moment qu'il y a la mort dans la vie et la vie dans la mort, après la mort, ça continuera comme ça. Il y aura la vie dans la mort. Je me souviens d'avoir appelé, si j'ai bonne mémoire, le jour de son enterrement, le jour de ses obsèques, je me souviens d'avoir appelé ça pour bien montrer que je ne croyais pas tellement à son catholicisme, mais que je croyais au fond à un certain spiritualisme, un certain essentialisme. Parce qu'il m'avait dit deux jours avant, je ne crois pas à la mort. La mort n'existe pas. Ce sera pareil. On ouvre les yeux et on voit.
Dans des moments comme celui-ci, je me suis senti parfaitement heureux, plein d'une joie calme où nulle exaltation factice de la personnalité n'apportait un élément d'erreur. Je me sentais par la profondeur de mon bien-être moral si parfaitement uni à tout ce qui est sans limite, que mon être même dans l'amour du monde qui l'occupait perdait de son poids. Pourquoi mon bonheur était-il accru de ne faire aucun cas de moi-même? Oh, je sais, à force de comprendre et d'aimer le monde, je le rendais comme étranger à la mort. J'installais si bien entre ma vie et moi la toute-puissance des choses que la mort ne pouvait se rappeler à mes pensées que comme une fatalité sans emploi, et réduite par le progrès de ma conscience à ne plus atteindre jamais qu'elle-même. Dans les nuits les plus noires comme celle-ci, j'ai vu très clair, fort loin. Sans arrière-pensée orgueilleuse, est-il besoin de l'ajouter, bien persuadé au contraire que dans un cas comme le mien, il n'y avait qu'une recrudescence de l'orgueil qui fût susceptible de rendre à la mort son efficacité. Quand la mort se présentera, me disais-je, elle ne trouvera dans celui que je deviens que la mort a frappé. C'est la mort qui a mis l'homme au monde, croyez-le.
Il était entré dans la vie à reculons. Il en est sorti à reculons, en un sens. Et toute sa vie, il a été semblable à ces sorciers du Moyen-Âge qui prétendaient vivre dans un monde second et éternel. Les sorciers du Moyen-Âge ne craignaient ni Dieu ni diable parce qu'ils considéraient que ce monde-ci, avec ses maux, ses douleurs, ses contradictions, ses joies, ses plaisirs, que ce monde se continuait. Bousquet a cru ça. Il a fondé au fond de ses espoirs sur ce que j'appelle l'imaginaire objectif. Pour lui, l'imaginaire, ce n'est pas du tout la fantasmagorie. C'était la véritable saveur de la vie, c'était la véritable réalité de la vie. C'est dans cela qu'il est assez près des surréalistes. Les surréalistes aussi, au fond, ont considéré que le surréel, c'était cette espèce d'exaltation que seul l'imaginaire procure. Bousquet avait vraiment horreur des doctrines cartésiennes, logiques, rigoureuses, parce qu'il considérait qu'elles étaient mensonges, qu'elles ne saisissaient pas du tout la vérité, que la vérité ne peut être saisie que par l'amour, que par un cri d'amour. Et en mettant toujours l'accent sur la révélation que ces états apportent. L'amour n'intéressait Bousquet que dans la mesure où l'amour lui apprenait sur lui-même quelque chose qu'il ignorait. Le langage lui apportait une réalité qu'il ignorait. La poésie aussi. Toutes les théories poétiques de Bousquet sur la non-antériorité de ce qu'on a à dire sur ce qu'on dit est sortie de là. Parce qu'il ne concevait pas que l'on puisse poétiser sur quelque chose. Il avouait qu'aujourd'hui, il était sur ce point un précurseur. Aujourd'hui, il n'y a pas un poète qui le pense. Mais enfin, à son époque, il y en avait qui croyaient vraiment que la poésie, ça consistait à traduire en poésie des idées, des concepts. Pour lui, non. Était poétique ce qui le surprenait, puisqu'il croyait que le langage était davantage son être que lui. Que le langage venait de l'être.
Il fait nuit dans la chambre où un médecin penche son visage un peu jaune sur moi et un peu plus nuit sur mon oreiller, où règne l'ombre bienfaisante d'un rideau. On n'entend que le sifflement du chauffage et le bruit grêle et vif de la montre que mon oncle a gardée à la main. C'est lui qui me soigne en l'absence de mon père, qui, docteur comme lui, a d'autres malades à soigner. Et je vois son visage s'illuminer d'attention parce que je suis arraché à la moiteur de ma couche pour lui parler à voix basse, le supplier avec des pleurs que j'essuie en me cachant le visage. Je ne me suis pas écouté, mais je l'ai vu m'entendre et il sourit ou grimace en me répondant, en affectant le parler zézayant des gosses de mon âge. On dirait que mes paroles lui ont ôté le moyen de m'appeler enfant et qu'il souhaite de me ramener à l'évidence en imitant le parler qui est celui de mon âge. Je lui ai dit en élargissant les yeux, « Laisse-moi mourir, je ne veux pas que tu me guérisses. » Et mes yeux se sont écarquillés, comme si je voulais ne plus voir que lui, ne plus être que mes yeux, lui inspirer avec mes paroles tout ce qui me force à en faire une prière, ne me fait pas vivre. « Tonton, ne le dis pas à papa, il ne faut pas que je vive. »
Nous avions vraiment de différence et j'étais l'aîné. Il a été un enfant maladif. Il est arrivé mort quand il est né. Il a traîné jusqu'à 2-3 ans. À 3 ans, il a eu une fièvre typhoïde qui a failli l'emporter. Et il est resté idiot, nous pouvons dire, pendant 3 ou 4 mois. Il a fallu lui réapprendre à marcher, à parler. C'est un rescapé complètement.
Madame Pateau, sœur de Jo Bousquet.
Mais nous étions dans une famille de médecins. Mon père était médecin. Son beau-frère était chirurgien, il a été très très suivi, et à 3 ou 4 ans, il était un enfant bien portant, solide et très capricieux, parce que jusqu'à 3 ou 4 ans, on avait fait exactement ce qu'il avait voulu. Très affectueux, intelligent, assez, comment dirais-je, ayant assez de sens critique, ne se laissant pas raconter d'histoires, il était drôle comme enfant, et puis très bon, très courageux, mais... Coléreux. C'est peut-être dû à sa maladie qu'il avait fait gâter un peu plus.
Oui. Il raconte qu'à Marseillais, s'il tue les chats, il se traite lui-même de voyou. C'était vrai?
Oui, c'est exact. C'est exact. Il est vu que commettait un crime en tuant un chat et puis il se rendait compte, il faisait un mea culpa, il se rendait compte qu'il avait été vraiment un garçon mal. Il le disait lui-même, mais il avait beaucoup de force de caractère, beaucoup d'orgueil. Et un jour qu'il était, il avait été particulièrement sot avec le domestique de mon père, il avait voulu lui faire faire des excuses. Il s'était refusé, il était parti avec son fusil en disant qu'il allait se tuer. Nous avons parcouru à plusieurs un parc de 2 hectares pour chercher son fusil. En fait, ça s'est arrangé à l'amiable. Le chauffeur, qui était un brave homme, a dit qu'il n'accepterait jamais des excuses de monsieur le fils qui avait 10 ans et qui avait fait marcher toute une maison à ce moment. En classe, il a été un très brillant élève, il travaillait beaucoup, mais il était plus intelligent que travailleur.
Vos parents comprenaient Joël Bousquet?
Je ne sais pas. Mon père était un homme qui avait travaillé. Il était ancien médecin militaire. Il avait moins de souplesse dans le caractère que mon frère, qui était plein de fantaisie. Le caractère de mon frère était d'ailleurs plus agréable que celui de mon père. Il était vraiment très beau et je crois qu'il avait eu une vie pas scandaleuse, mais une vie aventureuse et facile. À ce moment, d'ailleurs, les garçons sortaient beaucoup. Les filles étaient toutes dedans, bien encadrées, et elles étaient irréprochables en principe. Mais les femmes, peut-être à cause de la guerre qui s'approchait, qui est arrivée après, certaines étaient beaucoup plus libres. Alors, il a surtout écrit des lettres, des choses comme ça, qui se sont perdues, elles ne se sont pas gardées, bien entendu. Si je les avais, je me ferais un devoir de les rendre secrètes. Parce que les femmes sont mortes, mais il reste des filles, des petites filles, des arrière-petites filles. C'est à la fois trop près et trop loin. Je crois qu'il avait pour ces femmes une espèce d'amour platonique, un amour à ne pas réaliser, vous voyez. Mais il avait besoin de leur présence, de leur affection. Il avait peut-être besoin de savoir que quelqu'un pensait à lui, s'intéressait à lui et l'aimait. Il avait besoin d'avoir une affection près de lui.
Oui, mais il y avait tout de même des liens physiques entre ces femmes et lui.
Sincèrement, je ne l'ai jamais su. Il ne me l'aurait pas dit, vous voyez. C'est qu'à 19 ans, il était mutilé, il était même paralysé à partir de la quatrième vertèbre. Et il était inerte dans son lit, il souffrait. Il a eu une période de désespoir et on l'a évacué. Mon père a demandé qu'il soit évacué à l'hôpital de Carcassonne pour faire une cassure entre son départ et la rentrée à la maison pour qu'il ait le temps de s'habituer à sa paralysie. Alors, à ce moment, mon oncle qui avait fait ses études à Toulouse et qui avait été chef de clinique de Janelle, était très bien avec un professeur que je ne nommerai pas, il est mort sans doute, il m'avait demandé de venir le voir. Il y a des médecins qui sont durs, d'autres qui ne comprennent pas. Il avait regardé mon frère, il a regardé ses orteils, c'est la première chose. Il l'a ausculté et puis il a dit, mon ami, il n'y a rien à faire, vous ne guérirez jamais. Mon père l'a arrêté. Il lui a dit, voilà, mais je vous remercie, monsieur le professeur, l'a mené dans le couloir, il lui a dit, je regrette que vous n'ayez pas pensé que vous parliez à un garçon de 20 ans. Oh, excusez-moi, il lui dit, le malade doit être irréparable. Et alors, mon frère l'avait dit avant, je dois revenir à l'arrière. Dites-moi que je guérirai dans 20 ans, je vais avoir la patience, mais dites-moi que je guérirai. Je lui ai dit, comme j'en sais là. Alors, ça l'avait beaucoup traumatisé. Et pendant un an ou deux, nous avons eu peur qu'il se suicide d'une façon ou d'une autre. Faites attention à ce qu'il recevait.
Et il pensait ?
Oui.
Il vous en a parlé ?
Oui. Il me disait, qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Je suis un impotent, moi qui aime la vie, je ne me résignerai pas à rester dans un lit. À ce moment, nous avions près de nous, à l'hôpital, un médecin militaire, le docteur Picot, qui a commencé à lui passer des livres, à l'obliger à lire. Il a commencé à lire beaucoup plus, il était cultivé d'ailleurs, mais pas à ce point. Puis, on lui a suggéré, je ne sais plus qui maintenant, de faire un conte sur la cité. Et il a écrit quelque chose qui devait être un roman fleuve et qui s'est terminé plus court, mais qui est très joli, très frais, La fiancée du vent. C'est très très joli. Il a commencé à reprendre goût, à voir quelque chose, vous voyez, à voir un projet devant lui, avoir une chose qui pouvait l'intéresser. De là, nous sommes partis à la maison, au point de vue nerveux, il était très nerveux, mais au point de vue moral, il reprenait un peu. Il avait été un officier extrêmement courageux, et il a eu du courage pour reprendre sa vie. Il a été d'abord dans la maison où nous étions locataires, 19 rue de Verdun, puis mon grand-père étant mort, nous sommes allés dans la maison qui était à ma mère, 53 rue de Verdun, où il a eu sa chambre. Ses amis venaient le voir beaucoup, et puis il a fait la connaissance, c'est un peu plus tard peut-être, de Jean Paulhan, Jean Cassou, Jean Paulhan, qui l'ont presque obligé à écrire. Vous voyez, il m'a dit, vous avez un vrai talent d'écrivain, vous devriez écrire. Et c'est cette vocation littéraire qui l'a vraiment guéri de ses idées de suicide. Il était violent, mais il n'était pas méchant, il était incapable de garder de la rancune à quelqu'un. Et il n'aurait pas tiré vengeance de quelqu'un, vous voyez. Il n'aurait pas fait, il trouvait que c'était bas, que c'était vil.
Il exerçait une sorte de fascination quand même sur les gens.
Il était très beau, il était resté très beau. Il avait de très grands yeux, très profonds, un visage très pur, de très jolies mains. Il avait été vraiment très très beau, il était splendide.
Le ciel était bleu sur les chaumes à Marseillans, où j'ai vécu tous les étés de mon enfance. Cet ancien prieuré était devenu une honnête maison de campagne à tours carrées, enveloppée par une végétation sauvage. Des arbres entrelacés, des buissons impénétrables, mais des clairières où poussent des lys et ça et là des lilas qui fleurissent en septembre. Tous les voisins haïssaient le petit salaud que l'on voyait sous les pins, un Lamartine entre les doigts, une carabine à ses côtés. Il tuait les chats, les paysans empêchaient leurs chiens de s'approcher de lui, on racontait qu'il avait tiré sur sa sœur. J'aimais l'herbe, couleur de muraille, l'odeur de la pierre ensoleillée. Je froissais les lys, surpris d'abord qu'on pût les toucher, étonné enfin qu'ils ne fussent plus entre mes mains qu'une blancheur et un parfum. Je n'étais pas l'ami de mes yeux, mais j'avais baptisé tous les endroits dont j'aimais l'odeur, le monde perdu, le champ de l'urne. Dans ma petite enfance, on m'appelait l'homme-chien. Ma cruauté m'avait acquis ce sobriquet. Je détruisais les poupées de ma sœur, ou bien les découpais, je mordais les filles. Leur chair serrée dans l'étau de mes dents, de toutes mes forces, je secouais la tête à l'imitation des dogues qui étranglent un rat. Les hurlements de la victime rassemblaient un parterre de mères vociférantes et essoufflées. Après, cette basse cour reculait en ordre et non sans murmure comme l'eau de la mer, tandis qu'intervenait le cocher qui, sur l'ordre de mon père, me fourrait au lit. En passant devant les glaces, je regardais avec orgueil ma face livide et mes lèvres tachées quelquefois de sang. Les menaces que j'avais proférées ne me laissent aucun souvenir. Roulé en boule et le drap serré sur ma tête, j'imaginais en entendant au loin le jardin une femme aux cheveux dorés qui m'ouvrait son manteau bleu pâle.
C'était un homme qui vivait dans une atmosphère fermée. On ouvrait les fenêtres de sa chambre que de 11h à midi, par exemple, parce qu'il ne voulait pas voir le jour. Il vivait avec les volets fermés, quelques veilleuses allumées, et c'est tout. Et s'il est exact que les pensées ont une influence existent, eh bien, entre les quatre murs de cette chambre, il y a dû y avoir des tas de pensées qui vivaient par elles-mêmes, à force. Je crois qu'on donne corps à une pensée à force. Tous les gens qui sont rentrés dans cette chambre me disent « il y a une présence dans cette chambre ». Il m'avait dit « tu ne loueras jamais cette chambre, c'est là que je serai ». Effectivement, c'est très très curieux l'impression que l'on a en rentrant. Pratiquement, il écrivait surtout la nuit, parce qu'enfin, il s'éveillait à 11h, il prenait une heure pour sa toilette, un repas très léger d'habitude. À 1h, de 1h à 3h, il recevait quelques personnes dans l'intimité. Puis à 4h, la porte s'ouvrait et on se levait jusqu'à 9h, 10h, 11h du soir. Et c'est le moment où il écrivait jusqu'à 7h du matin.
Il reste beaucoup d'inédits de...
Il reste en ce moment un livre que je copie, La Palme, ça s'appelle. Ce sont des souvenirs de La Palme, des descriptions de ce village qui était tout à fait particulier. Nous avons grandi chez nos grands-parents, les vacances. Et c'est bien, c'est amusant. Ça ne ressemble pas à des ouvrages plus profonds. Il y a certaines phrases profondes, mais c'est moins philosophique que d'autres de ces livres. Puis quelques cahiers, il reste ça, il faut que je le revoie de très près parce que tout ne peut pas se publier.
Il y a un fameux cahier noir, je crois, qui a disparu.
Je crois que c'est... Quand Paulin est venu, Paulin était malade au dernier moment de jour. Il n'a pas pu venir, j'ai télégraphié. Et à 8 jours de là, nous sortions de l'église avec mon mari, quand nous l'avons vu. Il arrivait avec un de ses amis et il est venu. Je n'avais pas eu le courage de revenir dans la chambre. Il m'a dit, faut-il revenir parce que vous devez y rester. Il y a les souvent, il n'y a rien à faire. Vous revenez avec moi. Je l'ai suivi péniblement. Et puis, évidemment, ça m'a facilité la première visite. Alors, il a rangé au-dessus du lit de mon frère le livre où puisait sur mes inspirations. Il m'a dit, ça, c'est toujours là, ne le prêtez pas, ne le sortez pas, et laissez-le toujours comme ça. Et puis, il a cherché, et j'ai l'impression, peut-être fausse, qu'il a emporté un cahier noir en disant, il faut le détruire. Vous savez, j'étais tellement tapée à ce moment, et il y a 25 ans bientôt, que je me rappelle peut-être mal.
Et vous pensez que ce cahier a été détruit?
Oh oui, sûrement. Martin, je n'ai jamais trouvé de cahier noir. Et il n'y avait que moi qui avais la clé de la chambre.
Au diable le passé. Je n'ai même pas su rejeter ouvertement les croyances des miens. Mes parents m'aimaient, c'est-à-dire qu'ils abhorraient la forme d'espoir que je représentais et s'efforçaient de m'arracher à elle. Plus ils m'ont tracassé, mieux j'ai pris conscience de ma solitude morale et du rude sort qui m'apportait chaque matin tout un long jour à conquérir. Plus ils me voulaient du bien, plus ils me faisaient du mal. J'ai laissé passer l'heure de leur avouer que je ne les comprenais en rien. Je ne puis que haïr tout ce qui les continue et les condamne à renaître. Institutions, règles, codes, toutes les formes, l'administratif, le judiciaire. Je veux être le premier de ceux qui, au nom de l'esprit, nieront l'œuvre du temps. Car l'esprit n'épouse pas le temps, ne se laisse pas pénétrer par lui. L'esprit est dans chaque homme comme une source nocturne. Il l'empêche de se reconnaître dans sa pensée.
L'adolescence, ça a été une adolescence d'abord turbulente. Bousquet n'était pas un garçon commode. Il était violent, il était coléreux. Puis il entrait dans de véritables crises de férocité assez inexplicables. Il tirait sur les oiseaux, il tirait sur les chiens. Et un beau jour, il aurait tiré sur sa sœur. Eh bien, il le dit formellement. Sa sœur qui fut très, très effrayée.
À 18 ans déjà, sous toutes mes folies, au plus obscur des intoxications, morphine, cocaïne, éther, je retrouvais avec la même angoisse un désespoir si grand, si irraisonné et si plein de tout un ciel qui devait être comme la rançon de la joie véritable qui ensoleille aujourd'hui mon île déserte.
Il y eut le lycée de Carcassonne, important simplement par les amitiés que Bousquet... Il noie avec Jean Mistler, par exemple. Il fut toujours très l'ami de Jean Mistler, qui a écrit sur lui des textes extrêmement remarquables et au fond tout un roman, La route des étangs. Le personnage central, c'est Jo Bousquet, et il est fait allusion à une aventure qui a beaucoup marqué la vie de Bousquet. C'est cette espèce d'esprit casse-cou de la bourgeoisie d'avant 1914, tout ça est très bien marqué. Le séjour en Angleterre, à Southampton, qui fut peut-être, de toute la période antérieure à la blessure, l'événement clé. Bousquet fut ravi par l'Angleterre. Il était logé dans une famille où il y avait une veuve, je crois, et puis deux jeunes filles, ou trois jeunes filles. Mais Bousquet n'était encore qu'un enfant. Mais c'était un enfant qui voulait être un homme, qui fumait la pipe, qui se livrait à des bagarres invraisemblables avec les jeunes Anglais du port. Il se comportait comme un véritable petit voyou, on peut dire ça aujourd'hui, que le personnage de Bousquet a transcendé cette période de jeunesse. Il m'a raconté lui-même qu'il n'hésitait pas, qui n'hésitait pas, quand il se battait avec les veneux anglais, à employer cette méthode qui était à la mode en France, et qui consistait à mettre un doigt dans la bouche et à lui déchirer la lèvre. Il était vraiment terrible. Quant aux filles, ben, dans la mesure où elles se prêtaient à ces jeux, parce qu'elles étaient chastes, les jeunes anglaises et les jeunes françaises, enfin, dans la mesure où elles consentaient à se prêter à ces jeux, c'était de folles équipées. Enfin, ceci mis à part, l'Angleterre, sa poésie, la poésie des musicals, du musical anglais, les chansons anglaises, la poésie anglaise, Shakespeare. J'ai vu toute ma vie sur le lit de Bousquet un Shakespeare, édition monumentale, édition anglaise, car Bousquet lisait l'anglais, c'est là qu'il l'avait appris.
Ce matin, pour avoir regardé un peu longuement deux photographies, je revoyais la ville anglaise où se sont écoulés mes 16 ans. Il y avait un aspect de la ville que l'on découvrait comme par surprise au retour du bain vers midi. C'était entre la plage et les premières maisons comme une avenue se formant dans la clarté de l'air, un élargissement dont les yeux prenaient conscience, ou plutôt comme la présence sensible du large dans la ville où il allait s'absorber. C'était étroitement mêlé sur le trottoir que nous gravissions, le soleil de l'espace et le soleil des murs. J'ai failli pleurer en revoyant la jeune Anglaise qui se proposait le premier jour de remplacer auprès de moi la famille absente, et j'ai souffert de penser que j'avais 16 ans, que son jeune visage est resté pour moi l'image du bonheur, maintenant que j'ai l'âge de ceux qui me disaient du mal d'elle. Le souvenir de Southampton me met des larmes aux yeux, et c'est bien. Mon émotion est le prix d'une vie accomplie en dehors de la vie elle-même. Un peu de la douceur de l'air, sans doute, cette tendre atmosphère à laquelle, à 16 ans, j'étais, et pour peu de raisons, si sensible, est aujourd'hui le fruit exquis, dans ce port de mer, de mon émotion lointaine, et sur ces arbres grandis, dans ces rues pleines d'inconnus, répand pour griser ceux qui me ressemblent une douceur dont je suis le père. Joie spirituelle dont la réalité n'est sensible qu'à la pensée, ou que le bien-être du corps traduit dans son langage les seuls exceptionnellement ressentis, sauf dans un abandon comme le mien. Joie insaisissable et qui ne peuvent être approchées que dans les joies physiques, lesquelles en sont à la fois l'image et la négation. Ici, le lecteur s'émeut. Le rire imbécile montre ses dents. Pourtant, il y a dans ce que j'écris cette vérité, force, qui donne le visage à la lumière qu'il est dans mes pensées. L'atmosphère d'une ville est déjà l'amour qu'on a pour elle, un sentiment d'exilé. Et celui qui tire son sentiment de lui-même le sent précipiter dans l'oubli certaines jouissances matérielles qui désormais n'auront pour lui de sens que dans la mesure où elles peignent les joies de l'esprit. Mon plus gros chagrin fut qu'elle m'a place quitte toute, depuis Florie, qui me mangeait de baisers, jusqu'à Ivy, la lutteuse, qui se battait avec moi. Et qu'il était triste aussi de tomber sur mon visage d'enfant dans les coulisses du palace, où il y avait tant de miroirs.
Et puis, dans les années qui suivent, il n'y a pratiquement rien à signaler, sinon cette courte période d'adolescence carcassonnaise où ils mènent la vie des jeunes bourgeois riches ou aisés de Carcassonne, c'est-à-dire c'est l'amour bien entendu, l'amour adultère bien entendu aussi, puisque il était entendu à cette époque-là que les jeunes gens ne faisaient l'apprentissage de l'amour qu'avec les femmes des autres. Ça avait d'ailleurs beaucoup de bon, c'était très sage, ça, cette méthode. Alors, il faisait scandale parce que cette femme faisait scandale, et lui aussi. Cette femme était très libre, faisait ce qu'elle voulait. Et puis tout cela nous conduit jusqu'à la guerre de 14, où le père de Bousquet, ayant décidé de mettre son fils à l'école des hautes études commerciales, est au fond très heureux d'aller à Paris et de le surveiller à la faveur de la guerre. Toute la famille s'installe à Paris. Et Bousquet n'a pas beaucoup aimé Paris. Il n'en parle pas. Il en parle peu. Et j'attribue cela au fait qu'il était très encadré par sa famille. Le père était vraiment terrible. On le bouclait le soir pour qu'il ne sorte pas. Et alors on sortait le dimanche, ces dimanches parisiens ennuyeux au possible, qui devaient l'être encore plus à cette époque-là. Alors on voyait toute cette famille, mon Bousquet derrière, n'est-ce pas, tout ennuyé, passant devant les terrasses des cafés. Puis enfin, c'était quand même le Paris de la guerre. Hein. Bousquet revient à Carcassonne, mais il s'y ennuie aussi. Alors il devance la peine.
Né dans une famille bourgeoise et poussé au milieu de la société endormie qui commença le siècle, j'ai connu les mêmes plaisirs que tous les adolescents riches. J'ai partagé jusqu'à 18 ans leur existence, si douce, que l'on ne pouvait en la vivant continuer d'en rêver. Mais 2 ans après, parce qu'une guerre avait éclaté, j'étais devenu un homme qui n'avait sa place nulle part. Et avec une mine d'officier fêté, je portais sous ma vareuse le cœur d'un interdit de séjour. J'avais acquis l'expérience du crime et je savais qu'il ne pesait rien.
Autrement dit, il est attiré, alors voilà ce que l'on voit souvent chez Bousquet, il est happé par son destin. Il a hâte d'entrer dans son destin. Alors ce sont quelques mois, on allait très vite à ce moment-là, de classe à Aurillac où il fait un peu l'imbécile avec quelques filles, rouge de froid, dit-il, le pays des chaudronniers où les filles sont rouges de froid. Il fait un effet très froid à Aurillac.
Quand je veux aborder ma vie sous l'angle de mon bonheur, je regarde ces faits déterminants à la lumière de tout ce qu'elle fut. Je revois une salle de théâtre à Béziers pendant que l'on jouait Werther. D'un fauteuil où j'étais assis, je regardais dans une loge une jeune femme étincelante. Je n'osais pas espérer qu'elle jetterait les yeux sur le petit aspirant qui était là pour 2 jours. Je ne savais pas qu'elle serait à moi et puis qu'elle me ferait mourir. Ne dis pas une femme, ne dis pas une vie. Ce qui t'attire dans un regard est venu aux yeux de bien loin. C'est le reflet d'un feu qui brûle au-dessus de l'horizon. Ne crois pas que cette femme t'appartienne, même quand elle brûle de t'engloutir avec elle. Un fait perdu pour tout le monde dure dans ses pensées où quelquefois des damnés poursuivent leur vie d'ici-bas. Sur un malentendu, un garçon s'est tué à 20 ans pour cette femme.
Oui, c'est pour une femme. C'est pour une femme, et je me souviens d'en avoir parlé, je connaissais cette histoire depuis très longtemps, je me souviens d'en avoir parlé un jour avec Louis Aragon, qui était à Carcassonne, et qui au fond me disait que Bousquet, roi du Graal, hein, roi blessé, était quand même sacrifié pour sa patrie. Et je lui avais dit, mais sans trop, parce que Bousquet ne voulait pas qu'on le dise. Enfin, je lui ai dit, vous savez, méfiez-vous un peu. Moi, je crois que, comme le roi du Graal, d'ailleurs, et comme les troubadours, c'est pas pour la France qu'il lâche jamais, mais c'est pour une femme. Or, ça s'est en effet passé comme ça. Il y a là tout un complexe fatidique qui commence à la première blessure qui lui vaut une convalescence à Nancy et l'aventure très romantique de la petite prostituée qui meurt à côté de lui dans une chambre d'hôtel. Puis alors le retour à Béziers, la convalescence à Béziers, où son père était médecin-chef, et là, il fait la connaissance d'une femme qu'il a décrite, de façon assez imprécise, mais qu'il a décrite en termes somptueux, une femme de la haute bourgeoisie de Béziers, divorcée ou en instance de divorce, qui éblouissait sans aucun doute Bousquet par son faste, se promener en voiture, découverte. Et il l'aurait, enfin, il l'a connu, il le dit lui-même, au théâtre, à l'occasion d'une représentation de Werther. Le signe est manifeste. Hein. Bousquet n'aimait pas du tout la musique de Massenet, il le dit. Mais à cette époque-là, on n'avait pas le choix, on allait voir ce qu'on jouait. Mais s'il n'y a aucun rapport entre la musique de Massenet et Bousquet, il y en a une, par contre, entre Werther et Bousquet. C'est exactement ça, quand on se rappelle. Ben seulement, on ne lit plus aujourd'hui le Werther de Goethe, mais enfin, il est dit formellement dans le Werther de Goethe, que, enfin, c'est Werther qui le dit, qu'il ne se tue pas, il ne se tue pas par haine de la vie, il se tue par amour de l'être. Or, c'est exactement Bousquet. Bousquet a passé toute sa vie à combattre la vie pour entrer dans l'être. Alors, c'est un signe éblouissant que cette rencontre ait eu lieu à l'ombre, en quelque sorte, de Werther de Goethe, à travers ce pauvre Massenet.
Personne n'aura compris comme moi la nécessité d'entrer dans son être véritable. Tout s'élimine ou se dissout un jour autour de cette joie que l'on identifie à la réflexion au bonheur de se changer en soi-même. Je sens que mon geste le plus inconscient n'en est pas moins unique, chargé à lui seul de toute la quantité d'êtres que j'ai été créé pour manifester.
Alors ce fut une liaison vraisemblablement heureuse, mais rapide. Il fallait aller vite en ce temps-là, parce que la permission c'était 8 jours, 10 jours, hein. c'était ridicule, 15 jours quelquefois. Enfin. Et puis il fallait repartir, vous imaginez le crève-cœur. Eh bien, alors voilà le côté Bousquet stupéfiant. Bousquet décide de rompre avec cette femme et de rentrer au front. C'est-à-dire que non seulement il renonçait sans raison à cet amour, à cette passion, alors qu'ils avaient, paraît-il, décidé de se marier hein, quand elle aurait divorcé. Mais non seulement il renonce à ce bonheur, mais il va affronter un danger qu'il aurait pu éviter pendant quelques jours. Hein. À cette époque-là, cela comptait beaucoup, être soustrait au bombardement et aux mitrailleuses pendant tout le temps. Non, il rentre chez lui et demande même à son commandant de corps de lui éviter le séjour que l'on devait faire obligatoirement dans un dépôt. Hein. C'était une grâce qu'on faisait aux convalescents, on leur donnait au fond 2-3 jours de plus. Parce qu'il demande qu'on ne lui donne pas ces jours. Et il se retrouve en première ligne. Alors, c'est en première ligne qu'il reçoit une lettre de cette charmante femme qui lui dit qu'elle va se suicider et qu'au moment où il recevra cette lettre, elle sera morte. Vous imaginez l'état, parce que c'est surtout le connaissant tel que, si j'ai réussi à vous en donner une idée, vous commencez à le voir se profiler. Alors, toujours sa réaction habituelle, il demande la première attaque, il est volontaire. Mais lorsque on cherche la mort, on ne la trouve pas. Alors, il reste le seul survivant, tous ses hommes sont tués, il gagne des citations, et il n'est pas tué. Et le lendemain, il reçoit une autre lettre où cette femme lui dit « Non, je ne suis pas morte, finalement, je ne me suis pas suicidé. » Alors là, autre rage, autre mouvement de rage, et de nouveau, cette fois, il voulait se faire tuer. Considérant, et quand on y réfléchit bien, je crois que c'était chez lui l'impossibilité de concilier ses événements amoureux et futurs, le mariage futur, avec son destin. Il savait que ce n'était pas de son destin, ça. Il savait que ce n'était pas ça. Alors, on a raconté, je trouve que ce n'est pas très utile de raconter, mais c'est cette contre-attaque de Vailly, hein, c'est la grande attaque allemande, et les lignes françaises sont enfoncées, et le commandement français sacrifie un bataillon, des compagnies et des sections. Par conséquent, Bousquet fut pris sous un ouragan de feu. Il avait ordre de se replier, il a refusé. C'est pas replié. Ce qui montre, mais je répète, c'est pas par patriotisme, c'est parce qu'il voulait, se faire tuer.
Rien ne nous advient que revêtu de notre âme. Nous y reconnaissons qu'à la longue ce que nous avons appelé.
Mais par la suite, au fond, Bousquet n'avait pas subi là d'humiliation, d'amour propre, enfin, cette femme s'est déconduite un peu légèrement. Ça s'explique, à cette époque-là, les femmes de la bourgeoisie en France ne se représentaient pas du tout la guerre comme elle était. Pour elles, c'était une fantasia, la guerre. Alors, ça s'explique très bien, elle est très excusable, enfin, cette femme. Mais elle l'est moins quand, par la suite, ils se sont revus dans une ville d'eau, Bousquet mutilé sur sa petite voiture. Et un beau jour, elle lui a avoué tout naturellement que les lettres qu'elle lui écrivait n'étaient pas de son écriture, qu'elle les faisait recopier par une amie. Et pourquoi, dit Bousquet. Ah, vous auriez pu être tué.
Silence. Il meurt un nom de femme. Une lampe brille faiblement au chevet de celui qui désespère de lui-même. J'ai aimé. Je me suis rué vers la vie. Je me suis fait une âme à la mesure de mon corps détruit. Ai-je été fou de croire que le bonheur était de ce monde? J'ai cru que mes paroles pouvaient refaire au grand jour l'union de mon être et de ce que j'aimais. J'ai voulu habiter mes paroles, creuser dans mon amour un lit pour ses membres perclus, pour ma poitrine de malade. J'ai joint les mains devant une femme. J'ai trop voulu être près d'elle. J'ai cru qu'un homme monstrueusement diminué pouvait prendre quand même la place de son amour.
Je crois que Bousquet s'est toujours méfié un peu des femmes, quoi qu'on en ait dit. Seulement, ce comportement, qui n'est pas un comportement misogyne, il adorait les femmes, mais il adorait surtout la forme féminine, la beauté féminine, dans la mesure où cette beauté procure un rêve à l'homme. Mais cette espèce de méfiance de la femme se confond avec sa méfiance plus générale de Don Juan. Bousquet, c'est Don Juan. Tout le monde sait que Don Juan est au fond un impuissant, mais pas un impuissant total, un impuissant relatif. Tandis que Bousquet, lui, était le Don Juan total, en ce sens qu'il était impuissant total, enfin, du moins, c'est ce qu'on dit. Alors, cela suppose toujours une sorte de réaction défensive à l'égard de la femme. Le Don Juan craint toujours que la femme lui dise un bon matin, puis après tout, tu es un être diminué, j'aime mieux le beau garçon costaud et solide. Pour lui, les femmes, c'était des personnages de destin. Voilà, des personnages de destin. Et il faut bien le dire, c'était la grâce féminine, bien entendu, c'était le nu féminin, c'était les mines féminines, les airs féminins. Je le comprends pleinement, parce que je crois que presque tous les hommes pensent ainsi. Ce qui fait le charme des femmes, au fond, c'est leur air, hein, l'air que prennent les femmes. Pourquoi ? Et parce que c'est un air d'imaginaire.
Aimer, c'est naître à l'invraisemblable. L'amour, c'est l'aventure souterraine, et au plus étincelant du souterrain de cristal, le grand oiseau qu'il faut saisir par les ailes à la lumière d'un corps qui ne sait pas, mais qui inspire.
Dans la première partie de sa vie, les femmes ont joué évidemment un rôle capital parce qu'elles lui ont redonné le goût de la vie. Je pense à la première qui s'appelait Alice, à la seconde qui s'appelait Ginette.
Ma famille avait un jardin qui jouxtait le pré de où Jo venait se promener l'après-midi dans une petite voiture. Il avait 30 ans, j'avais 16 ans. La première fois que je l'ai vu, il m'a regardé, je l'ai regardé, j'étais une petite fille et j'ai eu très peur parce que tout d'un coup, j'ai senti une espèce de bouleversement, comme des ondes, quelque chose qui passait. Il m'a avoué depuis qu'il me connaissait tout enfant parce que sa maison était sur le chemin de mon école et que le matin, il me voyait passer. Et quand sa nièce a reçu une poupée, à Noël, il a dit « Je veux qu'elle ait les yeux de la petite fille qui passe devant chez moi tous les jours avec des tresses qu'on accompagne à l'école. » Par la suite, un beau jour, avec une de mes amies, nous avions décidé d'aller voir Jo Bousquet. Et dans la prairie, c'est à ce moment-là que le fluide, si vous voulez, a recommencé à jouer. Et quelque temps après, dans une escapade pour laquelle j'étais très punie d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas où j'avais été, et je ne l'ai jamais dit, nous nous sommes retrouvés seuls dans la prairie. Et Jo m'a dit qu'il m'aimait. Et c'était la première fois que j'entendais dire une chose pareille. J'étais extrêmement bouleversée. Et puis, nous avons commencé à correspondre parce que nous ne pouvions plus nous voir. Et nous avons correspondu comme ça très souvent. Et quand il fallait le voir, je m'échappais. Je m'échappais la nuit, je m'échappais le jour. Il y avait tout un système à la campagne qui s'appelait Gibalos. Au fond d'une sorte de terrasse, il y avait une porte dérobée. J'enfermais le chien, j'ouvrais la porte et je laissais une fenêtre du rez-de-chaussée entrouverte. Et la nuit, je partais, je marchais pendant 7 ou 8 kilomètres pour aller à Villalier dans la nuit noire. Et le moment où j'avais très peur, c'est parce qu'il fallait traverser près d'un cimetière et que là, j'avais plus peur que du bandit qui pouvait surgir. Et bien entendu, le lendemain matin, avant que le jour se lève, je repartais en ayant écouté Jo et en ayant, bu la bonne parole et en même temps étant heureuse dans mon cœur et comblée d'avoir vu un être si extraordinaire. Il m'a appris à penser. Peut-être que ce n'est pas une réussite, c'est fort possible. Mais enfin, je crois qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a fallu qu'il me démolisse pour me reconstruire. Comment s'est fait cette reconstruction? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je lui ai apporté? Je pense que je lui ai apporté. Je ne sais pas. Il est très difficile de le dire. Je crois qu'il m'a aimé. Parce que comme il m'a dit lui-même, on ne crée jamais que dans la sincérité. On ne peut pas créer dans le mensonge. Nous étions dans une période de, le prélude. Lui à son œuvre littéraire et moi à la vie tout entière. Et finalement, je crois que je lui dois beaucoup. On peut très difficilement expliquer les choses qui se sentent beaucoup plus que les choses qui s'analysent. Il est très difficile d'analyser ce qui se sent. Je sais que les jours où je devais voir Joé Bousquet, parce que c'était toujours au hasard d'un départ de mes parents, d'une surveillance qui se relâchait, d'une bonne qui voulait bien entrer dans la complicité, eh bien, je commençais à avoir, dès le matin, une sorte d'émotion qui se traduit par la chair de poule. Je tremblais de tous mes membres, j'avais une espèce de bouleversement, et j'étais sûre que même si les apparences était contre cette rencontre se produirait quand même, parce que je l'avais senti. Il avait un regard extraordinaire. Il était très beau, et surtout, je ne sais pas comment vous dire, nous nous accordions beaucoup, parce que c'était un enfant terrible, et moi aussi, et nous n'étions pas des conformistes. Nous nous étions trouvés, si vous voulez, dans un milieu feutré, bourgeois, traditionnaliste. Et à cette époque, nous passions pour les plus grands révolutionnaires de la ville. Nous étions voués aux gémonies parce que nous avions des propos, nous étions un peu révolutionnaires. Il avait énormément d'esprit, il était très gai.
On nous a dit plusieurs fois qu'il était, qu'il était assez pervers et qu'il pouvait être très très cruel. Mais quand on le lit, c'est la pureté qui est...
Oui, oh, cette perversité, c'était une écume, c'était une apparence. À mon avis, non, je ne le magnifie pas par le souvenir. Mais autant que je me souvienne, la pureté, c'est l'authenticité. Or, il était authentique. Il était lui-même. Maintenant, je crois qu'avec moi, il a été très gamin. Il avait retrouvé une sorte d'enfance. Moi, je ne l'avais pas perdu à ce moment-là. Mais enfin, nous nous sommes retrouvés dans cette sorte d'enfance. Il y a des moments où on jouait des tours comme des gamins, où on s'amusait follement, avec malice. Parce que l'amusement, c'est toujours la malice, bien sûr. Mais pervers, non. Je le serais devenu, je ne l'ai jamais été.
Et le fait qu'il ait été blessé, qu'il ait été mutilé, est-ce que cela vous gênait lorsque vous le voyez ?
Pas du tout, c'était les autres qui me semblaient mutilés, ceux qui ne l'étaient pas. C'était ceux qui marchaient qui me semblaient des infirmes, alors que lui ne marchait pas.
Et il vous parlait de sa souffrance ?
Une seule fois, il m'a écrit « Ce qui est terrible, c'est que pourtant que tu sois désirable, tu ne me sortiras jamais de ma prison de glace. » Oh, vous savez, nous étions des cérébraux. Au bout de 5 ans, nous nous sommes disputés, nous nous sommes fâchés. Certaines mauvaises langues ont dit que c'était parce qu'il n'avait plus rien à démolir, qu'ayant tout démoli, il était, lassé. Je ne le crois pas. Je crois que nous avions quand même des tas d'affinités. Eh bien, je bousquais sur terre l'homme pour lequel je me sentais le complément. C'est-à-dire que je ne pouvais pas espérer mieux. J'étais devenue moi-même une sorte de prolongement de sa personne. Nous nous étions absolument, malgré nos incartades, malgré nos échappées, eh bien, on se complétait. D'ailleurs, il m'a annoncé que la prochaine réincarnation, nous nous retrouverions, mais que nous serions du même sexe. Que je serais le geôlier, lui, celui qui serait arrêté, c'est une boutade d'artiste, je n'en sais rien, mais enfin, il était persuadé que si la réincarnation existe, nous nous rencontrerions encore. On s'est reconnus, au fond. On s'est reconnus parce qu'on était un peu parents, en quelque sorte.
Il a voulu vous revoir juste avant sa mort, je crois, dans les derniers instants de sa vie.
Et je ne sais pas, j'étais à Paris à ce moment-là, j'étais avertie, comme tout le monde, de sa mort. Et je sais que, moi qui ne pleure jamais, j'ai pleuré pour la première fois de ma vie à la mort de quelqu'un. Je ne pleure jamais, j'ai perdu un fils, un mari, une mère, je n'ai jamais pleuré un enterrement. J'ai pleuré quand Jo est mort et je suis allée voir son neveu à Paris qui m'a pris dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai eu un grand, grand déchirement, mais qui a entraîné même une émotion que je réfrène toujours, c'est les larmes. J'ai horreur des larmes. Là, je n'ai pas pu les arrêter.
Et 25 ans après, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Eh bien, mon Dieu, 25 ans après, je ne peux pas penser sans le retrouver. J'ai pas besoin de photos, j'ai pas besoin de relire les lettres. Il s'est incorporé à ma propre substance. Il m'a formée. Il m'a appris à penser. Il m'a tout appris. J'étais une petite bourgeoise idiote qui s'occupait de mondanité et d'usage mondain. Et il a fait de moi un être qui a tourné pour devenir authentique. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais.
Mais vous dites qu'il vous a détruite puis reconstruite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Il m'a détruite parce qu'il fallait détruire. C'était la première chose à faire. Certains disent que, à la manière de Nietzsche, il a fait pour moi une sorte de renversement des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses, les valeurs bourgeoises, il les a démolies. Mais il fallait les démolir. J'estime que quand on est sincère, on ne publie pas ses lettres d'amour. C'est une question d'honneur et non une question de morale. Voyez. Je pense qu'une lettre d'amour appartient en partie à celui qui l'a reçue, mais aussi à celui qui l'a écrite. Et je n'ai pas le droit de les publier. Je les sais par cœur, mais je ne les confierai à personne, parce que d'abord, je trouve que c'est une attitude cabotine.
Et vous les avez déjà montrés à quelqu'un ?
Je les ai donnés à Gaston Massat, parce que j'étais sûre de lui, parce que Gaston Massat, que nous appelions Totoche, était un vieux copain de faculté, et je savais que Totoche n'en ferait pas un usage, comment dirais-je, de divulgation. La preuve, c'est qu'il s'est servi de ce qu'il y avait dans les lettres, il n'en a publié aucune à ma demande. Ça a situé simplement pour lui le problème. Mais pratiquement, c'est le seul. Personne ne les a vus, même pas mes enfants.
Et vous ne voulez pas nous dire, enfin, sans que ce soit un passage enfin, intime ou qui vous touche beaucoup, une chose qui vous aurait beaucoup marqué dans ces lettres, où il parlerait de lui, par exemple?
Écoutez, je vais essayer de vous lire un passage. Tu vas travailler beaucoup. Je veux que tu deviennes quelqu'un. Je veux que tu saches dès maintenant que tu entres dans une vie très dure, qui sera pleine de déceptions et d'amertume. Car celui qui vit en esprit doit tirer de son esprit toutes les consolations. On n'est jamais compris, jamais. Le milieu même des gens de plume est aussi bête que l'autre. Les succès vont toujours à ceux qui flattent la médiocrité du lecteur. Mais il est une vie adorable, une vie où les pleurs même perdent leur signification, parce qu'elle obéit à l'amour. Dieu ayant au poète donné tous les droits et tous les pouvoirs sur l'illusion et sur l'amour. Il a fait d'eux les maîtres de l'irréel. Et il m'arrive... Ils en arrivent à aimer parfois la douleur, la pire douleur qui les arrache du moins à l'inertie et leur donne les consolations suprêmes de leur cri. Te perdre un jour,
mon amour, ce serait encore t'aimer. Te pleurer, ce serait encore pour mon âme t'attendre. Je sais que tu me comprends. Nous ne sommes pas de ce monde-ci.
Vois-tu, ma grande chérie, mon amour bleu, quelles sont mes blessures et combien je sais mordre. J'ai souffert en ton absence et il me semble que je viens de t'introduire toute transie dans mon horrible cauchemar. Je n'ai besoin après tout que de t'entendre me redire que tu es à moi, que tes danseurs ne t'ont pas troublé, que ton amour est bien celui que j'attends de toi. Et une femme plus avertie que toi sourirait de confiance en lisant les pages qui précèdent.
Il faut avoir perdu la tête pour écrire sur ce ton à une petite fille, de toute la plus jolie et la plus jeune. Et qui suis-je pour rêver ainsi que tu n'auras de regard que pour moi ? Viens, va. C'est dans ces moments que l'on éprouve qu'il n'y a pas assez de place sur un si petit visage pour recevoir tous les baisers du pardon.
Quand on est en hors-la-loi et qu'on refuse cette morale convenue qu'on a essayé en vain de nous imposer, il faut sentir naître en soi une autre loi morale, tout aussi forte et plus forte que l'autre. Sinon, nous serions pires que ceux que nous méprisons. Il ne faut pas agir comme des échappés de collège. Nous n'avons pas à obéir à des maîtres, soit, à la condition que nous comprenions qu'un nouveau maître est en nous, celui que nous voulons devenir. Et je t'écris tout cela que je sens me livrer un peu plus de ton âme, parce que je te vois avec une grande émotion naître un peu plus tous les jours à toi-même. Je ne t'ai rien dit encore de ces joies singulières que tu me donnes et que je suis le premier à éprouver et qui me touche plus encore peut-être que tous tes abandons à travers des signes irrécusables qui peu à peu se font jour. Je m'aperçois depuis quelque temps que tu es très intelligente. Mais ce n'est pas sur des niaiseries d'ordre scolaire que je te juge.
Je regarde l'originalité de ton esprit ensoleillé lentement un jour ici et un jour là, les sentiments que tu me découvres. Je te regarde avec une curiosité passionnée te dépouiller de ton enfance. Je suis sûre maintenant qu'il n'y a rien en moi dont je ne puisse me promettre qu'un jour tu pourras le comprendre.
Ça rejoint ce que vous me disiez tout à l'heure, mademoiselle, que, évidemment, la perversité là-dedans, je ne vois pas où la trouver.
Ah non, mais moi, je...
Non, mais enfin, quand on dit qu'il est pervers, peut-être avec d'autres. Mais certainement pas avec moi, en toute innocence, je peux vous le dire, c'est exact. T'aimais en perdre la tête parce que tu étais une image de tout ce que je devais devenir. Il me semblait que tu étais mon enfant. Nulle femme au monde n'a reçu autant de regards inspirés, n'a été aussi profondément et follement aimée que toi, dans les nuits où je m'enfermais dans le noir, avec ton image, que m'importait alors celle que tu étais devenue. Il avait ce visage tourmenté un peu, voyez, mais alors une très grande beauté. Il avait un charme extraordinaire. Des mains très longues. Il avait toujours la manie de se gratter le pouce. Je me souviens, voyez, il s'écorchait le pouce en parlant. Il y avait toujours une espèce de tic nerveux qui ressortait. Et pour le reste, il m'a dit qu'il était petit. Pour vivre une aventure comme ça avec Joël Bousquet, il ne fallait pas avoir peur au départ.
Ah, vois-tu. J'ai eu ma vie, puisque je sais que tout est à vomir, sauf l'instant unique d'aimer et de tuer ce qu'on aime, la seule façon de donner à son amour le rayonnement d'une étoile. Amour mystique, avec le risque de l'abîme, où l'on recherche la toujours plus improbable planche de salut.
C'était la première partie de Joël Bousquet, L'Inconnaissant, une émission de Françoise Esteb, réalisation Jean Couturier, première diffusion le 22 octobre 1975 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.